Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Yann Castagnier, photographe originaire de Sète. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes donc photographe depuis 2008. D'un côté, vous faites du photoreportage pour la presse. On a notamment pu vous voir dans Libération, Le Monde ou encore Paris Match. Et de l'autre côté, vous réalisez des documentaires photos, dont deux sont sortis en livre, Je vous regarde disparaître aux éditions Révélateur et Grandir dans la forêt qui sort dans Mediapart et également en format de livre numérique. J'aimerais d'abord parler de « Je vous regarde disparaître », un photoreportage qui est très intime sur ce que vous appelez la perte lente d'un être aimé, à savoir vos grands-parents, Roger et Colette. Pourquoi avoir décidé de partager le voyage de vos grands-parents dans la maladie avec le grand public ?
J'ai décidé de partager ce travail effectivement qui est intime parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup vécu aujourd'hui dans notre société par un grand nombre de familles, puisqu'il y a plein de familles qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Ce qui se passe, c'est que ce voyage, effectivement, vers la perte d'un être qui nous est cher, fait écho à la perte du lien d'un être qu'on aime. Et moi, j'ai décidé de pas du tout l'aborder de la manière scientifique, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer au niveau des neurones, et de décrire cette perte lente d'un être et de sa disparition, alors qu'en fait, il est toujours vivant. Mmh. Et c'était ce côté-là que je voulais partager avec tout le monde et que ça fasse écho, en fait, dans la vie des autres, et d'en parler de cette manière-là.
Et c'était prévu directement, enfin, dès que tu as commencé à les prendre en photo, c'était prévu que ça soit publié comme ça ?
Non, pas du tout. En fait, ça a démarré, je ne sais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que je commençais par faire des photos de mon grand-père, en fait, en noir et blanc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est décédé au bout de 2 ans. Mmh. Et j'avais fait des photos de ma grand-mère aussi en couleur. Mon grand-père est décédé. Ma grand-mère est tombée malade ensuite 5 ans après et il a fallu que je trouve un autre procédé pour pouvoir continuer, mais l'idée du livre n'était pas là. Mm. Je faisais des photos pour moi comme ça, etc.
Pour garder un souvenir.
Ouais, et puis je pense pour m'exprimer, parce que même aujourd'hui, rien que d'en parler, ça me crée des émotions et en fait, il y avait besoin d'extérioriser, de me réapproprier cette histoire. Et c'est au fur et à mesure que l'idée du livre est venue, parce que ça a été publié par Polka, ça a été publié par Libération, par La Croix. Et il y a un photographe qui un jour m'a dit, de toute façon, un jour, t'en feras un livre. Et c'est là où l'idée a commencé à germer. Et puis, j'ai proposé à la maison d'édition Révélateur. Et là, ils m'ont dit, de toute façon, vous voulez déjà éditer. Donc voilà, c'est parti comme ça. Mais ça, c'était au bout de 13 ans.
Ouais.
Donc voilà, alors, parce qu'il y a 15 ans de travail, en fait.
D'accord.
Et donc, l'idée du livre ne vient qu'au bout de 13 ans de photographie. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel comme parcours où moi j'avais zéro ambition là-dessus, quoi. Donc c'est une belle histoire en fait.
Oui, une histoire de famille.
Ouais.
Et donc vous parliez tout de suite des procédés de photos. Donc moi je les ai trouvés assez poétiques en fait, adaptés un peu à l'état dans lequel se trouvaient vos grands-parents à ce moment-là. Donc on retrouve le noir et le blanc pour votre grand-père dont la mémoire est restée un peu enfermée dans le passé. Et puis les pellicules périmées pour votre grand-mère. Comment ça vous est venu cette idée d'utiliser aussi des produits chimiques pour coller un peu à l'état de santé de vos grands-parents ?
Ouais, alors en fait, ça c'est... Moi, j'aime bien à chaque fois avoir un procédé esthétique pour les sujets différents que je fais. Donc c'est un peu mon truc de transcrire une réalité par une forme. Donc mon grand-père, au début, je l'ai fait en noir et blanc, très charbonneux, en fait avec des noirs très forts aussi, des blancs très forts, très contrastés, parce qu'il était bloqué dans un passé et qu'il y avait une certaine violence en fait dans ce fait d'être bloqué dans le passé. Et ma grand-mère qui était dans le présent, toute seule chez elle, avec des pellicules couleurs pas du tout périmées, où les couleurs sont franches et nettes et retranscrivent la réalité. Une fois que mon grand-père est décédé et que ma grand-mère est tombée malade, je me suis dit, il faut que je continue l'histoire, mais ma grand-mère, je ne peux pas la remettre en noir et blanc, parce que sinon, ça ferait l'histoire de mon grand-père qui continue. Mmh. Donc j'ai cherché un procédé, et là, je me suis dit, il faut que je rende compte de l'altération de la perception de la réalité par un moyen, et pour ça, j'ai utilisé des pellicules périmées, parce qu'elles donnent la couleur qui s'en va, quoi. Et après, la maladie s'est accélérée. Et ce qui s'est passé, c'est que, elle a fait des AVC. Donc, j'ai ouvert l'appareil pour faire des entrées de lumière, comme un petit peu un abîme de cerveau. Et puis, ça a été de pire en pire. Et j'ai fait des projections d'acide pour rendre compte du fait que les neurones sont affectés, quoi.
Et du coup, les pellicules sont altérées pour toujours là ou c'était des copies que vous avez altérées avec les produits ?
Les pellicules sont altérées.
OK.
C'est-à-dire que vraiment, l'original sur les entrées de lumière sont complètement altérées. Ce qui n'est pas altéré après par contre c'est les images sur lesquelles il y a des projections, c'est à dire j'ai pris des pellicules, j'ai fait les tirages et j'ai altéré les tirages que j'ai rescannés. Par contre les entrées de lumière, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mais alors ça aussi ça a été calculé, c'est à dire que ça fait partie du processus. Le processus est irréversible, comme la pellicule, je ne peux pas la faire revenir à un état antérieur, où il y aurait une photo, pas normale, mais nette et franche, quoi.
Dans le livre aussi, vous accompagnez donc tous vos clichés avec des descriptions à la première personne, au jeu. C'est presque des confidences sur vos souvenirs, votre relation avec vos grands-parents. Vous évoquez des anecdotes assez précises. Je me souviens des 3T de Télé-Loisirs. On a tous vécu ça avec nos grands-parents. Les figues, l'avion en bois. Vous retracez aussi leur histoire à l'un et à l'autre. C'était pas un peu effrayant de soumettre ce livre-là au grand public avec une part aussi intime de soi ?
Ouais, alors moi, c'est une partie de moi. Je suis pas très pudique sur les sentiments et sur les émotions. Parce que, je sais pas pourquoi, mais le fait est que dans mon idée, on vit tout ça et autant le partager et pas rester enfermé avec ça et faire semblant que tout va bien des fois quand ça va pas. Et puis des fois, on se pose des questions dans la vie et c'est bien de les partager parce que voilà, on est ensemble, quoi. Donc ça a pas été une violence en soi de partager avec les autres. Par contre, le moment d'écriture pour le partager, pour moi, a au final été le plus violent, en fait.
Ouais, c'est une introspection un peu douloureuse.
Ouais, et puis ça a été même plus violent que le décès, parce que tant qu'il y avait les appareils photos, j'étais un peu protégé. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où je l'ai écrit, tous les souvenirs sont remontés, c'est devenu très réel, et j'ai vraiment eu des moments où j'écrivais et je pleurais, quoi. Et donc ça, c'était plus dur qu'au final, la sortie du bouquin et de partager me faisait plaisir.
C'est quelque chose qu'on ressent. Du coup, moi, je l'ai lu en préparant l'émission et ouais, j'ai été très émue en le lisant, même si je ne les connaissais pas. Mais le récit que vous en faites était vraiment touchant.
Oui, oui, c'est gentil. Puis c'était des souvenirs, voilà, et c'est des souvenirs personnels. Et je n'ai pas cherché à savoir ce qui était vrai ou faux, par exemple, dans ce qu'il me racontait. Moi, il y a des histoires de famille un petit peu abracadabrantesques sur comment mes grands-parents quittent l'Algérie, parce qu'ils ont vécu là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais ce qui m'intéressait, c'était les souvenirs que j'avais d'eux. C'était pas de faire une enquête sur leur vie.
C'était le récit qu'ils avaient fait d'eux pour vous.
La mythologie familiale.
Alors, le 5 février dernier, donc, je disais tout à l'heure en introduction, Mediapart a publié votre travail plus récent sur les enfants de Saint-Pie-X, une maison d'enfants à caractère social à Daumont. Et vous avez exprimé sur Instagram votre reconnaissance envers Mediapart d'avoir été sensible à ce sujet en ajoutant, je cite, qu'il y a peu d'espace dans la presse pour raconter de telles histoires. Comment vous est venue l'idée de suivre et de raconter l'histoire de ces enfants-là à travers vos photos ?
Alors l'idée, elle me vient parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je travaille sur des sujets, on va dire, où c'est des lieux clos, puisque j'ai fait l'hôpital psychiatrique aussi, la maison l'EHPAD pour Alzheimer. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu de rentrer dans des lieux où on ne voit pas les gens d'habitude et où c'est stigmatisé. Donc ces gosses qui sont en fait sous protection judiciaire parce qu'ils ont été victimes de maltraitance, très souvent, on les confond avec les centres éducatifs fermés, où en fait, c'est des jeunes qui ont commis des actes délictueux et qui sont sous décision de justice, mais pour une condamnation. Et donc, ces jeunes-là qui n'ont rien fait et qui, au contraire, ont été en danger, ça m'intéressait de m'intéresser à eux et de créer quelque chose, un récit au long cours, qui en fait permette de raconter des histoires dans une dynamique et pas juste d'aller passer une journée de reportage, qui est le temps qu'on a dans la presse, en fait, quand on fait des reportages. Et en une journée, très honnêtement, on comprend pas des masses de... Enfin, on comprend de manière beaucoup plus superficielle les sujets. Et sur les enfants, moi, j'ai besoin de pouvoir créer, en fait, un lien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le choix du long. Aujourd'hui, dans la presse, c'est très compliqué à placer. Avant le Covid, c'était plus facile. Par exemple, sur Génération Identitaire, j'ai fait un an de reportage et d'enquête pour Libération. J'ai fait un an à l'hôpital Sainte-Anne en psychiatrie. Et ça, ils m'ont pris en production. C'est-à-dire qu'en fait, ils me payaient les journées. Enfin, j'avais un forfait où j'étais payé pendant que je faisais le reportage. Et Libération, ensuite, quand je suis revenu avec d'autres sujets, m'a dit « ça, on ne fait plus ». Et Polka m'a dit aussi « on n'a plus l'argent pour faire ».
Donc là, vous vous êtes tourné vers Mediapart ?
Ouais, mais qui ne l'a pas pris en production, je le vends après.
Ouais.
Donc en fait, c'est maintenant je pars tout seul sur mes sujets. Au tout début, je partais tout seul sur les sujets. Donc voilà, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pris en production, puis maintenant, on est revenu à quelque chose où je pars tout seul sur les sujets, et je vois ce que j'en fais après. Moi, ça me va, j'ai un modèle économique qui fonctionne bien, voilà, avec différents types de revenus qui me permettent de faire ça. Mais oui, la presse, un peu, perd son rôle du long, et on le voit, aujourd'hui, tout est remis sur du news, du news, enfin, il n'y a que ça, quoi.
Et ça, on en parlera après une première pause. On se retrouve tout de suite.